Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles. Nous sommes le mercredi 12 février, en direct de 19h à 20h et en rediffusion demain à 10h et sur Spotify. Chères auditrices, auditeurs, chaque semaine nous recevons celles et ceux qui bâtissent une Marseille qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. Ce faisant, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Cette forêt, vous le savez, nous l'explorons ensemble, chaque semaine, au rythme des saisons, et nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Auditrices et auditeurs, nous pensons que vous avez votre place à prendre parmi ces jeunes pousses, ces plantes grimpantes et ces arbres centenaires, et d'ailleurs vous êtes déjà là. Vous aussi l'équipe, vous êtes déjà là. Bonsoir Claire.
Bonsoir. Vous m'entendez ?
On t'entend.
Okay.
C'est marin ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Si la tombée de la nuit marque pour beaucoup le temps du repos, c'est aussi le moment où l'on voit glisser hors des buissons la faune. Cette faune qui vient s'enivrer dans les clairières devenues des dance floors champêtres. Ce soir, mes amis, les vers luisants nous éclairent. La nuit est jeune. Et c'est la fête dans la forêt des possibles. La fête, oui, mais pas n'importe laquelle. Une fête où l'on prend soin les unes des autres, dans le respect des identités et des besoins de chacun. Je m'appelle Jeanne Ray et ce soir, nous recevons l'association We Take Care qui œuvre pour la prévention et la réduction des risques en milieu festif. Bonsoir Charlotte Laubry.
Bonsoir Jeanne.
Bonsoir Joanne Pellicci.
Bonsoir.
Bienvenue à vous deux ce soir. Comment vous vous sentez? Vous êtes en forme?
Merci de nous accueillir, de nous recevoir. On est très heureuse d'être là.
Pour moi aussi, et merci pour cette très belle introduction.
Ici, on aime bien travailler sur cette métaphore de la forêt et l'idée, c'était de parler un peu de ce qui se passe dans la forêt la nuit, puisque c'est un peu le sujet qui nous occupe. Vous tous les deux, vous travaillez pour vous représentez l'association We Take Care, qui est une association marseillaise et qui œuvre sur les milieux festifs et qui intervient pour réduire les risques autour des violences sexistes et sexuelles et aussi autour de la prise de substances. Avant qu'on parle à proprement parler du projet We Take Care, on aime bien commencer par les parcours individuels pour voir comment vos parcours peuvent inspirer potentiellement des auditeurs, des auditrices qui voudraient demain se lancer et passer à l'action, peut-être auprès de vous, peut-être auprès d'autres structures de la forêt. Donc dans cette optique un peu individuelle, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter chacun, chacune, quels sont vos parcours de vie?
Je peux commencer si c'est ok. Du coup, bonsoir. Moi, c'est Charlotte, cofondatrice de l'asso We Take Care, du coup, avec Joanne ici présent. J'ai 26 ans et on va fêter dans quelques jours les 1 an de l'asso. Donc, on est très heureux de pouvoir bientôt célébrer 1 an de travail, 1 an de rencontre, 1 an d'action, 1 an de création d'une belle équipe. Moi, au sein de l'association dont je suis présidente, j'ai la joie de pouvoir recruter les bénévoles, de pouvoir travailler sur l'animation de sensibilisation autour de la lutte contre les violences à caractère sexiste et sexuel qui malheureusement ne restent pas à la porte de nos dance floors et dont on a besoin de se saisir. On a besoin de se saisir de ces questions-là et de ces oppressions-là pour en fait faire de nos espaces de fête des espaces plus safe dans lesquels on peut rencontrer dignement et librement. L'asso, si elle a bientôt 1 an, pour autant ça fait plus de temps que je travaillais bénévolement ou pas pour d'autres collectifs à Marseille. Et en fait, We Take Care, c'est un petit peu le constat que d'une part, il y a des structures et on en a éminemment besoin qui luttent contre la violence sexiste et sexuelle et de l'autre qui vont plutôt s'occuper du terrain sur la réassurance et la question des produits. Donc on peut parler de deux formes d'action qui sont primordiales. Mais c'est vrai qu'avec Joanne, on est parti un peu de ce constat-là qu'il y avait besoin d'un point d'action, d'un levier qui pouvait réunir un peu ces deux besoins-là. Et du coup, voilà, notre rencontre, on pourra peut-être en parler après que Joanne soit présentée, mais voilà, part de ce constat-là. Et voilà, je suis hyper, hyper heureuse de me dire que l'asso a bientôt 1 an et qu'on a la chance de travailler avec énormément de bénévoles, d'avoir accompagné beaucoup d'événements. Plus de 25, entre 25 et 30 aujourd'hui, donc on travaille beaucoup Et c'est une joie, c'est un bonheur, et on en reparlera aussi après, de travailler dans la fête. C'est, ouais, c'est aussi un monde, on va dire. Et voilà, et ça part aussi d'un constat très personnel en tant que femme, sur les dance floors, voilà, d'expériences personnelles, de croisements de témoignages en fait avec des personnes concernées, du besoin de s'engager sur le dance floor en fait. C'est une action militante en tout cas qui est nécessaire pour ma part.
Oui, merci de le poser comme ça. Très agréable de préparer une émission sur la question de la fête. D'ailleurs, merci Charlotte. Joanne.
Donc pour me présenter. Je m'appelle Joanne, j'ai 25 ans et je suis marseillais, donc j'ai vu l'évolution depuis ma naissance, on va dire, sur le territoire marseillais, et comment la question de la bienveillance, l'inclusion et le respect entre tous dans le milieu festif a évolué. Et comment de nouveaux acteurs et actrices se sont emparés de nouveaux sujets. Pour ma part, il y a maintenant 3 ans, j'avais été sensibilisé donc aux questions de violence à caractère sexuel en milieu festif par une association qui s'appelle Sound Sisters, et c'était sur une énorme soirée, je me rappelle, au Doc des Suds, qui s'appelait Psy Mind Amitadra. Il y avait des milliers de personnes, c'était encore la période où c'était possible de recevoir énormément de monde en public, du coup, sur les docks. Et je me suis rendu compte que à ce moment-là, même avec tous les efforts mis par l'association Sound Sisters, il manquait quand même un certain nombre de bénévoles, de personnes qui puissent prendre leur place. Alors, elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient faire, évidemment, mais c'est que c'était extrêmement naissant, et elles avaient, à ce moment-là, elles créaient une nouvelle vision. Comment faire du care? Comment faire une prise de soin pour le public, pour le staff, pour les orgas, au sein de la fête? Et suite à ça, j'ai continué à faire certains événements avec elles, jusqu'à arriver à un moment où une personne nous a mis en lien, qui s'appelle Fatih, merci Fatih, qui m'a dit, écoute Joanne, je te conseille de te présenter à Charlotte, qui du coup bosse avec Animals Industry, donc qui est un super collectif marseillais, qui sont plutôt axés sur la musique électro. Et donc j'ai rejoint une brigade sur une soirée Animals Industry, c'était une sauvage, ouais. Tu te rappelles laquelle?
Non, il y en a eu beaucoup.
Et en fait, je me suis rendu compte que la méthode de travail de chat, la manière dont elle exprimait ça, en fait, ça, il y avait une part un peu vibrante dans sa manière de regrouper les gens. Et ça, c'est quelque chose aussi que, à chaque fois, ça m'impressionne. C'est une manière qu'elle a de regrouper les personnes envers un même objectif, de créer une zone de bien-être, d'inclusion et de safe où, en fait, on ressent tous notre place. Ça, franchement, c'est beau.
Je vais rougir.
C'est beau. On est à la radio, t'inquiète, personne ne te verra rougir, et même c'est très beau de rougir. Donc vous vous êtes quasiment rencontrés sur une piste de danse, si je comprends bien.
Exactement.
Effectivement, donc la fête est un peu au cœur aussi de votre engagement, parce que c'est tout simplement quelque chose qui vous anime et qui vous plaît. C'est souvent comme ça qu'on lance les projets. Donc si je comprends bien, c'est... Donc toi, Charlotte, tu travailles un petit peu déjà dans le milieu. Joanne, toi, c'est pas ton travail à la base. Enfin, aujourd'hui, vous êtes bénévole dans l'association pour l'instant, ou
ouais,
vous travaillez à côté?
On est bénévole sur le projet.
Okay.
Et ça a vocation peut-être à évoluer. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais pour l'instant, ouais, on travaille bénévolement dans le projet.
Et donc c'est la rencontre entre vous deux, et vous avez développé cette vision qui vous a conduit à créer, il y a donc bientôt un an, Whitaker, bientôt joyeux anniversaire d'ailleurs. Comment ça s'est passé un petit peu, la création, l'émergence de cette association?
Alors, il faut savoir que quand on s'est rencontrés avec Joanne, donc j'aime beaucoup ce que tu dis sur on s'est rencontrés sur une piste de danse, oui. Et pour autant, c'était dans l'action la plus totale, puisque on n'était pas en train de danser à proprement parler, mais plutôt en train de identifier, observer, moi de mon côté, j'étais avec mon regard de personne qui veut donner plutôt à toutes les personnes bénévoles sur le projet un espace, une mission dans lesquelles tout le monde se sent bien, etc. Et c'est vrai qu'avec Joanne, il a fait plusieurs inters au début, et en fait, quand on se voyait, c'était très professionnel, en fait, en dehors des espaces de nos inters. Je pense qu'une fois qu'on a créé l'asso, on est vraiment devenus amis à partir de ce moment-là, puisqu'aujourd'hui, Joanne est un ami, mais c'est vrai que au début on avait vraiment un rapport très professionnel et qui s'est construit avec le temps, voilà. Et moi c'était, enfin ça a été un coup de cœur professionnel, on va dire, de ce désir de vouloir monter un projet ensemble qui au final n'est pas que le nôtre, loin de là. Et ce serait pas possible, on travaille avec trop de bénévoles et trop de chouettes personnes autour de nous qui, enfin, sans qui le projet n'existerait pas. Et voilà, c'était une douce construction de quels sont nos objectifs, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de créer, quelle atmosphère on a envie de donner et comment est-ce qu'on peut s'intégrer ou pas du coup dans le paysage marseillais. Puisqu'il y a d'autres associations qui existent avec lesquelles on a déjà pu travailler, je pense à Plus Belle la Nuit, je pense à Saint-Sisters que tu viens de nommer, à Safer, des assos qui sont géniales et avec qui on a déjà eu l'occasion du coup de travailler main dans la main et pour d'autres projets, je l'espère, à venir. Voilà, je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter.
Non, mais peut-être juste remercier aussi tous les bénévoles qui nous ont accompagnés, ceux qui ont été là que pour un événement, et puis pour celles et ceux qui sont là depuis le début et qui sont vraiment aussi des piliers actifs avec nous.
On commence un petit peu à... On est un peu autour de la notion, autour de vraiment l'action de We Take Care. On comprend que vous êtes tous les deux, le dance floor, vos bénévoles, ce coup de cœur un peu professionnel que vous avez eu. Si on pouvait un petit peu décrire pour nos auditeurs, nos auditrices, quelle est un peu la promesse de We Take Care, à quel besoin vous répondez dans le milieu festif, c'est quoi en fait We Take Care? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
We Take Care, c'est la promesse, l'envie de créer des espaces, donc des dance floors plus safe. J'aime aussi ce que tu disais sur voilà, notre rapport à la fête, et effectivement, c'est vraiment quelque chose d'hyper marquant, mais nous-mêmes et l'ensemble des bénévoles sommes des personnes qui aimons faire la fête. C'est quelque chose de l'ADN de We Take Care. Voilà, les gens se rencontrent en festival, les gens se rencontrent en soirée, etc. Les bénévoles, et du coup, envie de s'impliquer dans des projets aussi autour de la fête. Donc We Take Care, c'est un projet de prévention. Nous, on est vraiment là pour intervenir sur le terrain. On veut lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et on veut fournir des outils et de faire de la réduction des risques. Ça passe également par de la réassurance. Voilà. En fait, nous, notre mission, c'est de pouvoir accompagner les gens dans l'espace de fête. À partir du moment où, voilà, c'est des gens qui vont passer par la safe zone, notamment par le stand, ce sont des outils et des endroits qui sont hyper importants. Quand on touche à des questions vitales, au bout d'un moment, nous, c'est plus notre métier, c'est pas notre travail. Il va falloir évacuer les personnes. Ça touche à énormément de problématiques liées à la fête, aux consommations, etc., aux questions des agressions, bien évidemment. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir accompagner le public sur ces questions-là, de faire de l'écoute, première écoute, écoute active, accompagnement à plein d'endroits différents, de la sensibilisation. En gros, on va dire qu'on a trois missions globales sur les espaces de fête. Ça va être de l'accueil, de la sensibilisation. Donc, chaque personne qui rentre dans l'espace de fête se fait sensibiliser par des bénévoles de l'asso. Donc ça peut se faire sous plein de formats différents. Les bénévoles se trouvent un peu leur manière de véhiculer ce message-là. Et voilà, de mettre au courant, en fait, tout simplement, du dispositif, où nous trouver, comment est-ce qu'on est identifiable, du coup, avec des gilets violets et des petites loupiottes violettes, si jamais vous nous voyez en soirée.
Oui, c'est comme ça qu'on est. La Croix-Rouge sous un barnum mal éclairé.
Non.
Vous intégrez vraiment pleinement au paysage de la fête.
Voilà.
Pour que les gens aient aussi envie de venir vous voir et de vous parler.
Voilà, c'est l'idée, c'est un peu, voilà, les petites fées, les petites lucioles, ce que tu donnais dans ton introduction. À la base, c'était pas du tout des lumières violettes, mais on trouvait que c'était joli esthétiquement de faire une résonance avec le gilet. Voilà, couleur violette, couleur de la prévention, couleur du féminisme, c'est une couleur,
ouais,
c'est une couleur symbolique.
Et vous partagez, donc si je comprends bien, vous avez un peu ce double mandat. Le premier qui est de vraiment œuvrer sur la prévention de tous les risques qu'on peut connaître d'un point de vue des violences sexistes, sexuelles, consentement, tout ce qui est vraiment lié au comportement des hommes envers des femmes envers des femmes, tous les comportements qui peuvent être violents. Et de l'autre côté, il y a aussi toute cette question de la prise de substance et comment on a un petit peu accès, comment on donne des informations aux personnes pour qu'ils aient un peu une consommation éclairée sur ces milieux festifs. Donc en fait, vous êtes un peu comme des prestataires. On vous appelle pour intervenir sur une fête, sur un événement, et vous arrivez avec vos gilets violets, vous vous installez et... comment ça se passe? Vous avez des méthodes? Je crois qu'il y a un mur du consentement. Comment on vous rencontre quand on arrive dans la fête?
Alors, pour répondre à tes questions, du coup, le mur du consentement, c'est un outil mis en place par Kaggle Nomad. et qu'on va retrouver spécialement donc sur ces soirées-là. Ça nous arrivait également de le présenter une fois sur une soirée GSM qui s'est déroulée sur le Vieux-Port. Mais sinon, en général, un modèle type de présence de Whittaker sur un événement, ça va être, comme le disait Chat, du coup, une partie des bénévoles qui vont être à l'entrée du festival ou de la soirée pour pouvoir sensibiliser. Mais on va être là également en amont, parce que nous, notre intérêt, c'est que toute personne qui soit sur le site soit sensibilisée sur l'action que va avoir Whittaker, donc sur notre présence en tant que lumière, comme tu disais sur le dance floor, de personnes qui peuvent être là pour toi si tu en as besoin, ou si tu constates quelque chose de l'ordre de la prévention des violences, mais également vis-à-vis de la réassurance en cas de consommation. Voilà. Ensuite, vis-à-vis de ça, on va avoir également un stand, donc qui va être également un point de repère où on va pouvoir trouver de la documentation, du matériel en tout genre, et aussi un espace de discussion si on le souhaite. On va avoir également une zone, quand on a la possibilité, qu'on appelle une safe zone, où on va rediriger des personnes qui ont besoin de prendre un petit temps pour elles, ou un endroit où on va pouvoir aussi nous amener certaines personnes du public pour avoir un temps et un espace en dehors un petit peu de cette zone de bruit, pour à ce moment-là avoir de la réassurance. On va également avoir une dernière partie, donc qui va être les maraudes, où on va avoir des bénévoles qui vont se déployer dans l'ensemble de la zone de dance floor, où on va essayer d'être présente, visible, et essayer d'interagir le plus possible avec les personnes.
Vous travaillez beaucoup avec des bénévoles. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'association ? Et aussi, ma question, c'est comment vous faites pour les former ? Ce travail de prévention, c'est pas donné à tout le monde de savoir le faire. Donc, comment vous faites pour que ces personnes-là qui vont aller à la rencontre du public soient à même, en fait, d'avoir ces discussions, de donner les bonnes informations ?
Alors, aujourd'hui, on peut compter dans notre équipe une cinquantaine de bénévoles qui sont passés par le processus de recrutement, par la sensibilisation et par des interventions, et en bénévoles actifs, donc on va dire un peu le noyau dur des bénévoles qui s'impliquent avec nous, je dirais pas tous les week-ends parce qu'on n'a pas nécessairement des inters tous les week-ends, mais je pense qu'on est entre 15 et 20 à peu près, donc c'est chouette, et en fait ça devient un groupe hyper solidaire, c'est très très beau de voir aussi des amitiés naissantes suite à un engagement dans l'asso, etc. Donc ça, je trouve ça hyper touchant. Et du coup, oui, la question de la sensibilisation, donc parfois il y a le mot formation qui est utilisé et qui n'est pas ok puisqu'on n'est pas un organisme de formation, enfin on ne peut pas utiliser ce terme-là. Mais du coup, c'est moi qui vais l'animer. Moi, j'ai eu la chance d'être formée par l'association Consentis, donc qui est une association phare et référente dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Voilà, donc qui m'a transmis énormément de protocoles, de méthodes, etc. Donc moi, je reprends en fait un petit peu cette trame-là. D'ailleurs, sur le site de Consentis, si vous êtes intéressé, orga ou bénévole à en devenir, etc., n'hésitez pas à checker leur site. Il y a énormément de ressources, kits de communication, rédaction de protocoles. Enfin, c'est un site qui est très très riche. Et on aura la chance très prochainement de se refaire former à nouveau par cette association. Donc on a hâte en fait. Et l'idée, c'est aussi de ne rien prendre pour acquis, de se mettre à jour, d'être en veille sur l'actualité. La loi peut évoluer, la loi peut changer. Puis c'est aussi de se donner des tips en fait, d'avoir un transfert des connaissances, des pratiques. Voilà, que ce soit vraiment un lieu de transmission en fait. Moi je prends ce rôle-là de sensibilisation parce que c'est ce que je fais depuis plus de 3 ans. Et en fait, c'est aussi un espace où chaque bénévole en fait peut donner des cas concrets de situations qui est arrivée dans son expérience sur le terrain, on va dire. Et voilà, de se partager des tips face à une personne potentiellement qui est en fait en train de frotter quelqu'un. Comment est-ce qu'on réagit ? Comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision ? Ça passe aussi par ça. Est-ce qu'on reste seul ? Est-ce qu'on reste en binôme ? Enfin voilà, tout ça, c'est des questions qui sont hyper importantes parce que l'idée, c'est de se protéger aussi soi-même, c'est pas de se mettre en danger. Et pour autant, on invite et les bénévoles, mais aussi les membres du public à devenir des témoins actifs. Des espaces de fête, alors via la fête puisque c'est ce qu'on fait, mais après ce sont des outils qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, dans l'espace public. Enfin, l'idée, c'est vraiment de se bouger en fait et de oser agir au lieu de devenir, d'être simplement passif parce qu'on a peur, parce qu'on est régi par la peur, qu'on a peur de mal faire les choses. Et c'est notamment la méthode des 5D, c'est un outil un peu classique on va dire, mais qui est hyper utile voilà, de pouvoir le décliner. Donc la méthode des 5D, pour peut-être rapidement expliquer, c'est un 5 mots en fait, 5 actions, 5 verbes d'action qu'on peut utiliser face à une situation dite problématique. Donc là l'idée c'est aussi de définir qu'est-ce que c'est qu'une problématique, une situation problématique. Et qu'une fois qu'on a pu l'identifier, de se concerter en fait avec les personnes avec qui on est pour pouvoir prendre une décision. Voilà, donc ça va être diriger, déléguer, dialoguer, discuter, diriger. Enfin voilà, il y a ces 5 mots qui font que on peut passer à l'action. Voilà, globalement, c'est autour de ça qu'on aspire. Et comme je disais, il y a ce besoin aussi du coup de continuer à se former. Et les prestations, du coup, notre modèle économique aujourd'hui fonctionne comme ça, mais c'est de pouvoir financer ces formations, puisque du coup, quand tu es bénévole dans l'asso, c'est l'asso qui prend en compte via ces prestations qui nous permettent de financer.
Le modèle économique repose sur les personnes qui font appel à vous pour des événements, voilà, qui rémunèrent l'association sur
exactement
une presta,
voilà,
et qui derrière, ok. Mais oui, ok, d'accord. Et effectivement, c'est ce travail-là, de ce rapport aux soins et ce rapport d'être en mesure soi-même de pouvoir vivre des situations de crise. Donc c'est super important, j'imagine, de mettre les personnes dans des personnes qui sont d'autant plus bénévoles dans ce genre de situation. Est-ce que j'ai un peu l'impression là que ce que vous faites, ça relève du service public pour nos fêtes et puis pour tous les endroits de la vie. Est-ce qu'il existe des dispositifs mis en place par le service public qui ressembleraient un petit peu de près ou de loin à vous, ou est-ce qu'il incombe à Whittaker ou aux autres associations de faire ce travail-là de démarchage pour aller derrière se former pour rendre les espaces plus safe?
Je pense qu'il y a plusieurs volets de réponse vis-à-vis de ça. En premier lieu, je pense qu'on pourrait parler plutôt de l'axe de la réduction des risques avec l'association BUST 3132 qui avait été créée, je crois, en 94 par une équipe de médecins qui faisait partie de Médecins du Monde, et que ça s'est décliné au fur et à mesure dans le milieu festif pour en fait prendre soin vraiment du public. À la base, c'était quelque chose uniquement sur la santé sexuelle, parce qu'avec la prolifération du coup de prévention vis-à-vis du VIH, et au fur et à mesure ça s'est développé sur d'autres axes, plus au niveau de la consommation. Et aujourd'hui c'est des structures comme par exemple Plus Belle la Nuit qui est sur Marseille, qui est vraiment ancrée sur le territoire et où il va avoir une aide, on va dire, plus financière avec l'Agence Régionale de la Santé qui va leur fournir des subventions, du matériel, et elles, eux, vont pouvoir se déplacer directement sur des événements de manière gratuite. Aujourd'hui, nous, on n'a pas cette possibilité-là parce que, on est encore une jeune association, donc on n'a pas de subvention. Mais sur ce qui est de la question vraiment de la prévention des violences à caractère sexiste et sexuel, c'est vraiment un milieu qui est extrêmement naissant et où on n'a pas forcément d'acteurs publics qui sont impliqués vis-à-vis de ça. Avec les quelques associations qui entrent dans ce terrain-là, je pense qu'il y a tout un monde à construire. Et que c'est grâce à des acteurs et des actrices, citoyens, citoyennes et publics, en fait, de personnes qui se disent « Ok, j'ai envie de profiter de la fête, mais j'ai envie de profiter de la fête autrement. » Je pense que c'est ça. C'est juste des festivaliers, festivalières, personnes qui se rendent compte qu'il y a certaines situations qui sont pas OK et qui ont envie d'œuvrer pour que ça change.
J'aurais envie d'ajouter aussi que le secteur de l'événementiel est déjà un endroit dans lequel c'est compliqué d'être rentable, en tout cas pour des petites structures, des petits organismes, des petits collectifs qui ont envie d'en vivre, c'est hyper compliqué. Et que nous, on essaye en tout cas, enfin c'est un peu le constat qu'on peut faire aujourd'hui après un an de travail et de création d'asso, qu'en fait il faut se battre pour qu'il y ait plus d'argent en fait qui soit donné au safe, à la sûreté, à la sécurité des personnes qui font la fête. Je pense que la prévention, la lutte contre les violences sexistes sexuelles existe. Je veux dire, il y a des acteurs dans le public derrière qui vont prendre en charge tout ça, mais dans la fête, pas tellement en fait. Et du coup, s'il y a la création d'associations qui existent, et sur le territoire national, il y en a autour de toutes les métropoles, enfin il y en a dans des villages, il y en a dans plein d'endroits, etc. Ça existe. Mais je pense que, comme tu disais, c'est vraiment des gens lambda qui se saisissent de ces questions-là et qui se disent, ok, mais en fait, ce qui se passe, c'est pas normal. Quand on assiste à des agressions, quand on assiste à des personnes qui sont en train de faire des chaos dans un coin et qu'en fait, personne s'en occupe parce que personne ne sait comment intervenir. et que tout ça accumulé fait que en fait on se bouge et on essaye d'eux. En fait, tout ça relève d'une question peut-être plus large dans laquelle en fait bah ouais, faut se battre pour qu'il y ait plus de sous qui soient aussi alloués. Enfin, je veux dire, quand t'organises ta soirée et que il y a dans ta ligne de budget bah ouais, ta boîte de sécurité privée, parce qu'en fait t'es obligé légalement de passer par ça si tu veux faire du légal. En fait, il faudrait que dans la prévention fasse partie de ces premières lignes. Et malheureusement, aujourd'hui, on est relayé au fin. C'est la dernière ligne. S'il reste un peu de sous, est-ce qu'on pense à ça, etc. Et c'est pas encore suffisamment démocratisé, je pense, dans les mœurs, dans les mentalités, de penser à ça d'office, quoi.
Et un peu un angle mort de la fête, ouais, dans tout le volet, ouais, culturel. C'est vrai. Et en fait, la prochaine étape, on en parle un peu, mais c'est d'avoir un peu cette ligne obligatoire légale de se doter d'un service de RDR et de lutte contre les HSS en milieu festif. Tu disais, Joanne, que c'était un milieu très naissant, et c'est vrai que on voit régulièrement, enfin, on voit de plus en plus d'associations un peu comme les vôtres et de projets qui émergent. On voit aussi toutes ces problématiques qui émergent dans le milieu de la fête, mais ailleurs. Est-ce que vous sentez auprès du public, auprès des fêtards, des festivaliers que vous rencontrez, quels sont les retours? Est-ce que les gens sont heureux de vous trouver là? Est-ce que ils comprennent pas encore? On en est où un peu là-dessus, d'après votre expérience?
Comme je te disais tout à l'heure, on a un objectif, c'est vraiment de sensibiliser toutes les personnes qui rentrent directement dans l'espace. Et c'est vrai que parfois on est confronté à un public qui clairement n'en a rien à faire, et un autre public qui est vraiment très intéressé et on va dire très investi aussi dans ce qu'on peut apporter. Et certains nous remercient, certains nous balayent du regard pour un peu nous ignorer, mais on prend quand même le temps à chaque fois de les sensibiliser et aussi de faire en sorte que ça devienne des acteurs et des actrices vis-à-vis de ça. Je te donne un exemple très bateau. Un groupe de 6-7 mecs qui rentrent dans une soirée au doc, qui sont déjà un peu dans un état d'ébriété ou de conso, et on va leur présenter le projet de sensibilisation. À ce moment-là, très simplement, il y en a la plupart, soit qui vont rigoler, certains qui vont essayer de partir, ou d'autres qui s'en foutent. Mais il suffit juste de capter l'attention d'un pour essayer de passer le message et de faire en sorte de lui dire, bah, écoute, ok, juste si tu vois quelque chose, n'hésite pas à venir nous le dire. Juste, tu vois les personnes avec les gilets violets, les petits cloupiottes, tu vas les voir et tu leur juste dis, ok, il y a telle situation qui est problématique, je l'ai constaté, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et c'est déjà un pas énorme de pouvoir rendre acteurs et actrices les spectateurs.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une... Ah, non.
Ok, ouais, je prends la parole. Oui, parce que alors depuis tout à l'heure, vous parlez des situations qui sont problématiques. Est-ce qu'on pourrait les nommer? Je pense que ça serait très intéressant pour les auditeurs, auditrices de verbaliser et montrer des exemples de comportements qui sont pas ok et qui sont problématiques pour pouvoir ensuite mieux les dénoncer.
Ouais, bien sûr. Je pense que, enfin, la liste est beaucoup trop longue et c'est pour ça qu'on est là et qu'on ne veut plus être là. Je pense qu'une situation qu'on pourrait nommer qui arrive très très fréquemment, c'est les frotteurs. Donc en fait, quand tu parlais d'angle mort, c'est un petit peu ça. Donc en fait, il s'est rien passé, mais il y a un début d'action 2. Ça va être une situation qui va être très fréquente. Ça va prendre en compte aussi tous les propos discriminatoires, donc les propos racistes, sexistes, grossophobes, transphobes, qui peuvent avoir lieu, qui en fait ne sont pas tolérés qui sont pas légaux en fait déjà. Donc ça, on veut pouvoir les dénoncer, pouvoir les nommer, pouvoir confronter les personnes qui ont nommé ça. Et ensuite, on va aussi, du coup, malheureusement, prendre en compte tous les cas d'agression, de soumission chimique. Je pense que c'est aussi important de le nommer. Les personnes qui se font droguer ou, qui vont pousser, inciter à la consommation d'alcool non consenti. Donc, ça peut aussi par payer énormément de verres, de coups, etc. Donc soumission chimique, les propos. Et je pense que les situations de frotteurs sont les plus fréquentes, en tout cas de nous, nos expériences, malheureusement. Agression. Je pense que c'est les situations auxquelles on a dû avoir, on fait face, nous, en tant qu'asso. Puis ensuite, en tant que public aussi, quand on sort, c'est des choses auxquelles on est confronté en tant que témoin ou victime aussi parfois.
Et est-ce que, j'imagine que, sans parler de, sans poser le mot légitimité, parce que là, la question n'est pas vraiment là, mais j'imagine aussi que l'engagement des bénévoles et le souhait de s'engager auprès de vous, c'est forcément peut-être d'avoir vécu des expériences qui ont pu être problématiques et d'avoir souhaité changer les choses. Donc est-ce que, je sais même pas si c'est une question, mais en tout cas, il y a un peu cette histoire des personnes qui ont pu faire l'expérience soit de la prise de consommation, soit de milieu festif, soit très beau, soit très pas beau, pour ensuite, derrière, avoir envie de passer à l'action, quoi.
Ouais, je pense. En fait, ça provient, en tout cas, de mon regard, aussi d'un ras-le-bol, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on veut s'engager dans la fête aussi? C'est parce qu'on a envie de pouvoir... En fait, le fait d'avoir le gilet donne cette légitimité. Tu parlais de la légitimité, mais en fait, il y a peut-être quelque chose qui se passe à cet endroit-là de... Là, en fait, j'incarne quelque chose d'autre que juste ma propre personne. En fait, nous, on travaille avec les organes, on travaille avec les agents de sécurité, on travaille... Enfin, on est en lien toute la soirée avec ces personnes-là et on est entouré. On a des briefs en amont, on a des briefs en aval, ce qui fait qu'en fait, on se sent légitime. Je parle en mon nom, mais je sais que c'est aussi le cas des bénévoles qui, au début, après, il y a des chemins différents d'une personne à l'autre. Il y en a au bout de, il faut peut-être 15 inters pour se sentir légitime, et il y en a qui rapidement comprennent les enjeux et comprennent la question de la posture. Et qu'en fait, d'une situation à l'autre, la posture, c'est vrai que c'est un mot qu'on n'a pas encore nommé, mais qui est primordial. Comment est-ce qu'on se positionne face à telle ou à telle situation? Et il faut aussi prendre en compte le fait que ce soit un public qui consomme. Et comme on disait au début, le but, c'est pas de se mettre dans une position de danger. Du coup, quand on veut désamorcer une situation, mais qu'on est face à quelqu'un qui peut être physiquement violent, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour justement pas finir envoyé à l'hôpital parce qu'on s'est pris un pain dans la tête, quoi.
Ouais. Et c'est là que le cadre un peu de votre intervention, c'est faire de la prévention, essayer d'apaiser les personnes, d'ouvrir cet espace de discussion. Mais derrière, s'il y a un moment de crise, s'il y a de la violence, s'il y a une perte de connaissance, vous collaborez aussi avec en fait les services médicaux, ouais, les services de police. Et
clairement.
C'est voilà, vous êtes un peu le lien entre
exactement entre le public en fait et que ce soit en fait la police, les agents de sécurité. Nous, on n'écarte jamais deux membres du public qui commencent à se foutre un peu sur la gueule ou quoi. Ça, c'est pas notre rôle. Par contre, le fait d'avoir en amont fait un brief avec la sécurité où on explique vraiment pourquoi est-ce qu'on est là. Le but, c'est pas d'être une sous-sécurité, pas du tout. Mais voilà, de bien se présenter, d'expliquer le protocole, de montrer qui sont les personnes référentes, etc. Parce que du coup, il y a aussi une forme de... Ouais, c'est ça en fait, de protocole et de charte qui est expliqué. Le but, c'est vraiment de travailler en fait main dans la main sur les événements et qu'il y ait un fonctionnement à 360 pour qu'on sache exactement quand il y a telle situation, ok, qui va chercher qui et comment est-ce qu'on va pouvoir gérer la situation.
Je pense que ça repasse aussi sur le point de déléguer que tu disais tout à l'heure dans la méthode des 5D. Même nous, et principalement aussi en tant que bénévoles dans ce milieu-là, on a besoin de déléguer à d'autres personnes qui ont des compétences et une place que nous, on n'a pas. Tu parlais par exemple de la sécurité. On va venir collaborer avec la sécurité pour pouvoir prendre en charge l'agresseur-agresseuse et nous plutôt nous concentrer sur la victime. Je pense qu'il y a aussi cette idée-là de où on s'est placé dans une zone professionnelle qui n'existait pas, où il y avait une agression, un comportement qui n'était pas tolérable, et où donc la sécurité pouvait potentiellement intervenir et laisser pour compte la victime, parce que la sécurité n'est pas formée à une prise en charge des victimes. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a un impact aussi très important au milieu festif.
Vous êtes devenu un maillon essentiel de toute cette chaîne d'acteurs dans le milieu festif, donc c'est très très beau.
Et cette question du lien aussi, puisque c'est vrai que parfois, donc là on est sur le thème des agents de sécurité, mais parfois quand tu viens, en fait, on vient de te mettre une main aux fesses par exemple, donc tu viens de subir une agression sexuelle, bah aller voir l'agent de sécurité, c'est pas hyper rassurant. Ça peut être d'expérience ou juste, voilà, ça peut être aussi des idées reçues bien sûr, mais il peut y avoir un sentiment de peur qui surgit à ce moment-là, et c'est là qu'on intervient aussi en fait, et qu'on est un sas de décompression, et ensuite on se pose et ok, qu'est-ce que t'as envie de faire, voilà les options, on explique, etc., on accueille la parole, on accueille la personne, on se pose dans un endroit au calme, tranquille, et en fait voilà, ça permet à la personne de pouvoir souffler un petit peu, alors que je pense que de se retrouver dans le vestiaire avec des agents de sécu, voilà, c'est peut-être pas l'endroit où la personne va se sentir le plus safe. Et effectivement, ça va être ce lien-là entre l'action et la décision.
Un endroit au calme, tranquille, c'est ce que We Take Care nous propose. Les amis, je vous propose qu'on fasse une petite respiration musicale, peut-être pas forcément calme ni tranquille. Vous avez choisi une chanson, est-ce que vous avez envie de nous la présenter?
C'est une musique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Feeling Celebrated de Blue Hawaii, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Et tout simplement, son nom peut un peu déjà indiqué, mais c'est venez, on célèbre en fait. Mm. Venez, on célèbre qui on est, on célèbre ce qu'on fait dans un monde anxiogène où l'actualité, la montée de l'extrême droite au quotidien fait qu'on n'a pas envie nécessairement de célébrer. Je trouve cette musique, enfin moi je l'écoute assez souvent pour justement se rappeler que c'est important de célébrer les petites choses. Et du coup voilà, cette musique a été choisie tout simplement pour cela.
Feeling Celebrated.
C'est la magie du direct. Parfois, on se trompe de musique. Et là, on va mettre la bonne. À tout de suite.
Retour, pardon pour le petit couac musical au début de cette pause musicale. Merci infiniment, malgré tout, les personnes qui s'occupent de la régie et qui sont au top. On est toujours avec Whitaker, cette association marseillaise qui assure des missions de prévention des risques en milieu festif. J'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice avant de passer un peu à la suite de l'entretien. On va essayer de se projeter un petit peu. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux?
C'est possible.
Ok, super. Donc on va essayer de se projeter un petit peu ensemble, Charlotte, Joanne, dans un monde qui va mieux. On est en 2040. On a réussi à se guérir collectivement des troubles des dernières années, en 2040. On a d'ailleurs évité un sursaut fasciste qui nous pendait au nez au milieu des années 20. Et le bruit des bottes est maintenant loin de nous. Ça, on l'a fait grâce à la mobilisation de chacun et de chacune. Aujourd'hui, on est bien. On est à Marseille. Et la fête bat son plein. J'aimerais bien que vous réfléchissiez, que vous regardiez autour de vous. Où êtes-vous? Auprès de qui? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que Whittaker est toujours là? Comment est-ce que vous voyez Whittaker? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous ressentez, ce que vous entendez? Vous pouvez ouvrir les yeux quand vous voulez et nous dire.
Pour ma vision, je vois une fête inclusive, bienveillante, queer, où peut-être que la part associative de la prévention des violences n'existe plus, mais la partie réduction des risques existe toujours, mais plutôt sous une forme informative, avec des espaces d'écoute, d'échange et de transmission de connaissances. Quelque chose de beaucoup plus doux.
Moi, le mot qui m'est venu en tête, c'est le mot expérience. Mais du coup, dans le sens, tu vis la fête pour une expérience humaine et pas pour une expérience peut-être traumatisante comme certains festivals peuvent être. Trop de monde, trop de personnes qui comprennent pas l'importance que de la place de chacun chacune sur les espaces de danse par exemple. Et du coup, ouais, le mot expérience, j'ai vu de l'eau et j'ai vu la montagne quand j'ai fermé les yeux. On était à Marseille, mais on était plutôt sur le côté montagne. Et c'était très apaisant. Moi, la fête, je veux la faire toute ma vie. J'en aime trop ça, j'aime trop ça. Mais ouais, on n'existe plus comme on existe aujourd'hui, en fait.
Ouais.
Whittaker existe toujours, mais ça prend une autre forme. Et je suis d'accord avec toi, Joanne, sur la partie. En fait, on continue à s'informer. Pour les personnes qui consomment, je pense que la conso existera toujours. Elle a toujours fait partie de la vie de l'humanité. Donc ça va pas bouger. Mais venez, on s'informe sur comment, pourquoi, d'où ça vient. Et voilà.
C'est intéressant ce que t'as dit, Joanne, sur tout le volet un peu violence sexiste et sexuelle n'existe plus chez Whittaker, ce qui prouve qu'on a atteint une forme d'idéal où chaque humain, chaque humaine est alerte et sensibilisée, éclairée sur ces questions, et il n'y a plus aucun comportement de dérive, en fait. Donc c'est très très beau de se dire ça, et c'est le propre de pas mal d'associations. D'ailleurs, c'est un peu le mandat de pas mal d'associations de dire une fois qu'on aura réussi notre travail, si on a sensibilisé le monde entier, on va juste cesser d'exister, et c'est pour le mieux. Par contre, le deuxième volet de votre action sur justement cette réduction des risques, c'est assez intéressant. On en parlait un petit peu hors antenne. C'est un peu pas le parti pris, mais c'est un peu la vision de votre association, de dire que cette consommation de substances, elle fait partie de l'expérience de la fête. C'est pas toujours ce qu'on cherche tous et toutes, mais elle en fait partie, et elle va pas partir pour le coup. Comment vous expliquez un petit peu, est-ce que vous pourriez développer un petit peu sur cette nécessité de parler de ça, de parler de cette consommation, de former les gens, plutôt que de le flouter?
Il y a une part aussi de consommation de fête, à proprement parler, sans forcément parler de la consommation de substances, mais le fait de consommer la fête d'une certaine manière. C'est ce que disait Sha aussi dans sa projection, c'est pourquoi est-ce qu'on fait la fête? Dans quelle manière? Comment? Avec qui? Pourquoi? Quel est l'objectif de faire la fête? Est-ce que c'est vivre une expérience, rencontrer du monde, y aller pour soi, s'immerger dans un monde qui est en dehors d'un temps et d'un espace de notre routine quotidienne? Comment on vit la fête?
Changer un peu les rapports, ouais, essayer d'être plutôt dans l'instant présent et de plus s'enivrer, ne plus s'enivrer dans la substance. Aujourd'hui, on est un petit peu dans un climat qui va beaucoup vers la répression de tous les comportements qui sont liés à la drogue, aux prises de substances. Vous pensez que il faut pas cacher ce genre de choses?
Ouais, c'est ce que j'allais dire sur c'est le mot que j'allais utiliser, en fait. Le parti pris qu'on a, en fait, dans une société où l'alcool est légal, les clubs sont légales, enfin, c'est aussi des moyens de lâcher prise, etc. Sauf que derrière, il y a un agenda politique, il y a des lobbies, etc. Enfin, du coup, c'est aussi un parti pris de dire, mais en fait, il y a d'autres choses qui existent et on les diabolise plus. Alors oui, on peut discuter des effets et du pourquoi, mais encore une fois, c'est un rapport de consommation. De pourquoi est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qui amène à nous, on parle sur tout ça, en fait. On peut donner accès à l'information, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur quel est tel produit, comment est-ce qu'il est consommé, d'où il provient, comment est-ce qu'il est conçu, etc., quels sont ses effets. Mais de manière générale, c'est l'abus du produit qui emmène à. Et c'est plutôt ça, nous, qu'on veut mettre en avant, en fait. Et oui, la consommation existe, elle a toujours existé et elle continuera à exister. Après, c'est comment est-ce qu'on fait pour consommer de manière éclairée, informée et être au courant, en fait. C'est libre à chacun, à chacune de faire ses choix de consommation. Ça ne nous regarde pas, en fait. Mais effectivement, dans un climat où voilà, c'est très tabou de parler de sa consommation. Enfin, voilà, après, je suis pas une experte sur la consommation dans le monde et ne serait-ce que sur les pays frontaliers en Europe. Mais j'ai l'impression, quand on regarde un peu nos voisins espagnols, allemands, belges et néerlandais, qu'il n'y a pas le même rapport au tabou et à la stigmatisation des drogues dites dures. Voilà, où on aspire à quelque chose de dépénaliser. On en parle plus, en fait. On se donne accès à l'info et on stigmatise pas les personnes qui en consomment.
Oui, il faut vraiment être dans cette idée d'être éclairé, voilà, sur ses choix, et ça, ses choix de consommation.
Ouais. Et ça, pour nous, c'est important de le remettre et de remettre aussi l'information au cœur, en fait. Et oui, non, la répression, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Enfin, c'est lunaire d'interdire à tout prix quelque chose, puisque dans tous les cas, si ça existe et qu'en plus il y a un marché derrière, ça continuera à exister, quoi. Donc autant faire les choses.
Surtout qu'en ce moment, on a plutôt envie d'augmenter un peu les doses.
D'autant plus que, au lieu de réprimer et peut-être d'accompagner et de proposer peut-être des substances qui sont plus contrôlées, plus sûres, ça permettrait aussi d'éviter de consommer de manière plus dangereuse.
Est-ce que la fête de demain, d'après vous, elle se fait encore sur des événements à des milliers de personnes? Est-ce que la fête de demain, la fête qui est un peu plus dans le soin des unes et des autres, des uns et des autres, c'est des fêtes plus petites, plus locales, ou est-ce que vous pensez qu'on peut être très doux, douces les uns avec les autres, même sur des événements grandeur?
Je pense que c'est à tout le monde de se faire sa propre réponse, mais moi personnellement, je pense que l'effet de masse, l'effet grande échelle emmène à, ouais, il y a quelque chose d'un peu plus violent quand il y a beaucoup. Enfin, ça dépend de l'échelle, bien sûr. Moi, je trouve que revenir à la petite échelle, oui, effectivement, ça permet de mieux comprendre un message, de mieux le passer, etc. Après, voilà, il y a quand même énormément de joie, je trouve, à se retrouver vraiment entouré de... Parfois, alors, si on n'a pas d'anxiété sociale, agoraphobie, etc. Mais voilà, à se retrouver sur une musique qui fait danser des milliers de personnes en même temps. Mais ça, c'est fou, quoi. Ouais. Tu vois, les gens qui dansent, qui sont animés par la même énergie, qui tape du pied en même temps, je trouve ça magique. Il y a un côté
de liesse populaire,
ouais,
on est
qui fait
par la foule,
ouais.
Comme
ça crée
l'autre.
Ça crée une grande énergie, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. J'ai pu faire l'expérience par exemple de l'Ozora Festival en Hongrie, où c'est 40 000 personnes, sauf que l'espace il est énorme, tu mets des heures à le traverser, et c'est des rencontres qui sont vraiment très très fortes dans des espaces de bienveillance qui sont inclusifs, où en fait les personnes sont juste là pour profiter de l'expérience, et il n'y a pas cet esprit de m'as-tu vu avec je prouve que j'étais là, où tout le monde est sur son téléphone portable, où il y a une consommation qui est là juste pour consommer. Il y a vraiment cet esprit là d'expérience musicale, de moments de rencontre avec des personnes qui ne se seraient jamais croisées dans leur vie. J'aime beaucoup une sorte de map qui est présente dans le festival, où en fait les festivaliers et festivalières peuvent mettre un petit pint sur la zone d'où ils viennent, et on voit la map monde qui est remplie, et franchement c'est hyper riche d'expérience. C'est pas pour autant que les petites soirées plus locales dans des petits collectifs ou dans des contextes, on va dire, plutôt de free ou de rave, mais je pense qu'il y a, comme disait Chat, chaque personne doit faire sa place là-dedans.
Ouais, des événements de 40 000 personnes qui sont safe et inclusifs, c'est possible. Il faut beaucoup de we take care, j'imagine, pour rendre ça possible. Est-ce qu'il y a beaucoup de structures aujourd'hui à Marseille, ou même plus largement au national, qui œuvrent comme vous dans ce sens-là, d'une fête plus inclusive? Est-ce que vous êtes connecté à elle? Est-ce qu'il y a un peu un plaidoyer qui se développe? Est-ce que vous sentez que ça grossit vis-à-vis des besoins dont on a parlé, qui sont énormes?
Alors, il y a des assos qu'on a déjà pu citer et on les embrasse très très fort, on va les redire, mais Plus belle la nuit, Sound Sister, Safer, On a eu la chance aussi de rencontrer via donc on était sur le Data Festival cet été, Addiction France, le groupe SOS, Avenir Santé, il y a ENIPS également. Voilà, c'est, ça reste en fait un peu l'univers des associations de prévention sur Marseille.
Rêve Safe aussi.
Rêve Safe ils sont pas sur Marseille, ils sont sur Paris.
Ils sont Paris.
Ouais, qui sont venus une fois, enfin avec qui on a pu travailler une fois sur Marseille. En fait il y a pas mal d'initiatives, on reçoit beaucoup de messages aussi enfin c'est vraiment comme nous quoi, de gens qui disent ok, j'ai envie de monter un projet, une initiative, un collectif, alors pas du tout qu'à Marseille, mais on voit que, en tout cas nous via les messages qu'on reçoit, que les gens ont envie de se saisir de ces questions là en fait c'est accessible à tout le monde hein, donc ça c'est quelque chose, c'est très important de s'en rappeler.
Il y a encore une place à prendre
bien
en fait,
sûr,
pour plein d'autres associations.
Et le plus on est
couvrir...
en fait le mieux c'est, dans un sens, parce que du coup alors il y a des collectifs qui décident aussi d'internaliser leur pôle safe, on va dire. Donc là, t'as pas besoin en fait de faire appel à une association en presta, etc. Mais il y a aussi d'autres événements qui préfèrent faire appel à, pour voilà, des raisons qui leur appartiennent. Je pense qu'à partir du moment où on met en place un dispositif, dans tous les cas, où on y travaille, il se passe un truc et c'est chouette. Il y a aussi tout un travail en amont à faire, je pense, sur en fait, les outils de communication qui existent aujourd'hui. Qui est important de remettre aussi, puisqu'en fait les gens consomment les réseaux sociaux et s'informent aussi via ça. Donc y a un rôle à jouer à cet endroit-là qui est important. Et oui, effectivement, je pense qu'on peut peut-être aussi parler, ça me fait penser à l'initiative Où va la nuit qui a été créée. Donc là, on n'est pas sur le pôle safe ou sur la prévention à proprement parler, mais voilà, où il se passe des choses à Marseille, où en fait on a peut-être envie de se rapprocher entre structures, entre orgas, entre collectifs, mais aussi entre associations locales de prévention pour faire passer des messages. Et peut-être que Joanne, je sais pas si t'as envie de dire un mot sur Où va la nuit ou pas, mais je trouve que c'est une belle initiative qui montre que les citoyens, citoyennes de Marseille ont envie de faire un peu bouger les choses et de se battre pour le milieu de la culture.
Où va la nuit, juste pour préciser, c'est donc ce collectif qui porte une tribune sur le développement, ou en tout cas contre la mort de la vie nocturne marseillaise, notamment incarnée par la fin des docks des Suds. Et voilà, je sais que vous avez signé un peu la tribune qui était portée par Où va la nuit.
Oui, tout à fait. On y a participé. On fait partie des collectifs qui soutiennent, enfin des associations qui soutiennent Où va la nuit. Et c'est parti d'un constat, donc la fermeture des docks, qui est menacée depuis des années. Je crois que j'ai commencé à entendre parler de la fermeture des docks sur une de mes premières soirées. À l'époque, c'était les We Are Together, donc c'était il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où on nous dit, oui, les docks vont fermer. Là, il y a un préavis de quelques mois, mais dans quelques mois, ça va se fermer. Et en fait, c'est une mort pour la vie marseillaise, parce que c'est le seul espace qui permet un accueil du public aussi modulable, avec la scène cabaret qui peut accueillir jusqu'à peu près 1000-1200 personnes, je crois, avec une petite scène qu'ils ont créée juste par la suite, et vraiment la fermeture de la salle des sucres. Et la fermeture de la salle des sucres, ça a été un énorme choc, je pense, pour les Docks des Suds, parce que c'était vraiment une partie qui était énorme. Et le projet aujourd'hui, qui a été durement mené par le président des Docks des Suds, ne peut plus en fait le soutenir, parce que il arrive à un stade où on lui dit, monsieur, ce n'est plus à vous en fait à faire ça. Et c'est pour ça que ce président là dont j'ai plus le nom en tête engage justement énormément d'émotions à ce que ce soit toute la nouvelle jeunesse en fait marseillais, marseillaise, à prendre cette place là à ce que les associations se regroupent, à ce que les festivaliers et festivalières se regroupent et soutiennent ce projet.
Et on comprend bien que d'avoir des acteurs comme vous dans la fête, c'est aussi un levier pour construire les fêtes de demain et construire des fêtes un peu plus belles pour tout le monde. Pour moi, ça pose un peu la question qu'on avait un petit peu évoquée ensemble, c'est cet endroit de la fête militante et le fait que le monde de la nuit périclite à Marseille, c'est aussi beaucoup moins d'espace d'expression, beaucoup moins d'espace de rencontre, d'expression artistique, de discussion, de moments qui sont importants d'être vécu. Vous, est-ce que vous développez un peu toute cette idée de la fête militante? Est-ce que, d'après vous, les endroits festifs peuvent nous sauver vis-à-vis de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Je sais qu'il y a un peu un regain des fêtes. La ville de Marseille a lancé tout un appel à subvention sur les fêtes de quartier pour essayer de réinvestir un peu ces espaces publics. Est-ce que vous pensez que la fête, le dance floor est un peu un des derniers remparts pour nous tous?
la fête est politique, ça c'est sûr déjà. Ce qu'on disait un peu aussi, c'est que les oppressions s'arrêtent pas aux portes du scan de ton billet, quoi. Donc oui, non, la fête est politique. Comme je disais, pour moi, c'est un de mes leviers de militantisme. Voilà, sur des espaces où voilà, il y a un lâcher prise, souvent justifié par de la consommation, souvent justifié par des voilà, non mais ça va, on fait la fête, on déconne. Voilà, il y a énormément de choses qui sont intolérables et qui le deviennent sur ces espaces-là, et d'où en fait le besoin d'agir, etc. Je pense qu'il y a une énorme partie de nos bénévoles aussi qui se considèrent en fait voilà, c'est aussi un endroit de militantisme. Donc oui, la fête est politique à cet endroit-là. Et ensuite, pour répondre à la deuxième partie de ta question, la fête est aussi un endroit dans lequel on a envie de lâcher prise, ou justement quand voilà, que ce soit parce qu'on est on est des personnes militantes qui avons besoin de lâcher prise, mais peut-être pas, et qu'en fait après ta semaine, t'as juste envie aussi de décompresser, d'aller danser tranquillement sans prendre la tête, en fait. Ouais, c'est un des derniers remparts, à mon avis, où en fait parfois on l'attend pas, et parfois on l'attend trop, il se passe rien, mais en fait on est un peu en hyper vigilance aussi. C'est possible, en tout cas, d'être sur le qui-vif et d'être limite dans l'attente de est-ce qu'on va encore me faire chier pour prendre toute la place, me mettre une main aux fesses, encore avoir un énième propos sexiste, etc. Est-ce qu'on peut juste faire la fête en paix. Donc oui, je pense que c'est clairement un des endroits où on a besoin de continuer à agir.
Ouais. Et la fête, c'est politique. J'ai une question à vous poser un petit peu d'un point de vue du soin. Parce qu'on parle beaucoup de soin depuis le début de cette émission. Le soin, c'est quelque chose de politique. Le soin, c'est quelque chose qui est aussi très l'apanage du féminin attribué ou du féminin choisi. Concrètement, dans vos équipes, vous portez cette question du soin, vous prenez soin les uns les autres, des festivaliers, des fêtards, des fêtardes. C'est quoi un petit peu la parité qu'il peut y avoir dans vos équipes? Est-ce que chez WeTaker et aussi dans les autres associations, est-ce que c'est encore les femmes et les minorités de genre qui se saisissent de cette question? Est-ce que dans vos rangs, il y a des hommes cis qui sont là juste pour prendre soin des unes des autres de manière bénévole?
On observe un peu. Alors au début, quand on a monté l'asso, ouais, il y avait quand même beaucoup de femmes qui s'engageaient, et en fait plus tant. C'est assez équilibré, et puis après voilà, en fonction des moments de l'année, voilà, il peut y avoir, on va dire, des tendances, on va dire. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais voilà. Je trouve que c'est assez équilibré, en fait, et ça donne de l'espoir dans un sens, de voir qu'en fait il y a aussi des mecs cis, du coup hors Joanne, qui est assis ici et qui s'empare de ces questions-là et qui milite aussi activement pour aussi sensibiliser les hommes. En fait, on en parlait aussi tout à l'heure, mais dans les festivals, dans les gens du public aussi, l'idée c'est en fait d'aller vraiment les confronter aussi sur le rôle qu'ils ont à jouer en soirée. Toi, tu penses que tu fais ta soirée, mais en fait, voilà, la question de la place que tu veux prendre, etc. Et en fait, le fait de voir aussi des hommes parler à d'autres hommes de ces questions-là, enfin, je pense que c'est un levier d'action qui est hyper important et qu'il faut pas sous-estimer, parce que c'est important que les hommes aussi parlent de ça, en fait, entre eux. Et voilà. Après, c'est pas nous ce qu'on, enfin, c'est pas le, on n'appuie pas là-dessus. Ça se fait assez organiquement. On dit pas aux mecs cis de l'asso, allez, va parler. Enfin, voilà, ça se fait organiquement ou pas. Mais oui, ça, on l'observe. Ouais. Il y a pas que des femmes et des personnes trans dans notre équipe, même si on les compte et on les compte avec nous. Et ça fait plaisir.
Et bravo, vous arrivez à incarner un modèle de société dans votre organisation que vous portez aussi dans vos actions. Donc bravo pour ça. On approche doucement vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un petit peu des déclarations à faire, ou est-ce que vous avez des rendez-vous? On peut vous retrouver bientôt.
Moi, j'aimerais juste faire un petit coucou, un petit mot à mon collectif d'amour Animals Industry, avec qui j'ai commencé à travailler dans la prévention, en fait, qui m'ont fait confiance, et je les remercie et je les aime du fond de mon cœur. Donc voilà, c'est important que je le dise.
Joanne, pas plus de...
Et sinon, vous pouvez nous retrouver déjà sur notre Instagram, bon voilà, on est un peu en période de réflexion sur Instagram, que faisons-nous, on reste, on part, etc. Voilà, comme je pense beaucoup de collectifs, d'assos, etc., qui ont besoin d'Instagram pour exister. Voilà, ils posent des questions, mais on existe encore sur Insta, pour l'instant. Voilà, et puis sinon, on sera sur la Cagole Nomade le 28 février. Après, il y a d'autres événements, on n'est pas sûr, mais ce sera sur Instagram.
Okay.
Et si jamais vous souhaitez devenir bénévole près de nous, n'hésitez pas à venir visiter notre page Instagram, c'est WeTakeCare, WeTekCare.
Et puis sur vos prochains événements, vous pouvez chercher les personnes qui sont avec des petits gilets violets et des petites loupiottes comme des lucioles dans la nuit de la forêt. Merci WeTakeCare de protéger nos clairières festives. Vous nous offrez une respiration nécessaire pour continuer à mener nos luttes militantes et pour faire un monde un peu moins dégueu. Merci Joanne, Charlotte. Merci Claire et Marin.
Merci Jeanne pour l'invitation.
Merci.
Auditeurs et auditrices, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres sur les dance floors et partout ailleurs. Bonsoir.